Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Tous les mois, je vous propose de partager mon échange avec Alix Georges, hypnothérapeute et thérapeute au sens large, déjà intervenue dans Réel à plusieurs reprises. Elle aide au quotidien de nombreuses personnes et j'ai eu envie d'aborder avec elle plusieurs thématiques de société qui nous concernent tous. Allez, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation thérapeutique avec Alix Georges. Alix, merci d'être de nouveau ici pour nos rendez-vous qui s'appellent Conversation thérapeutique. Ce sont des rendez-vous mensuels. Alix, tu es thérapeute et hypnothérapeute depuis maintenant, je crois, 5 ans. Donc j'ai l'honneur de te recevoir pour qu'on aborde ensemble des thématiques qui nous tiennent à cœur et qui sont des thématiques, à mon avis, qui concernent beaucoup, beaucoup de gens. On a abordé ensemble la dernière fois la psychologie de l'enfant et donc on en vient maintenant à la psychologie de l'adolescent parce que c'est dans la continuité. Alix, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que c'est que l'adolescence en fait ?
Bonjour Estelle, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, effectivement, dans la continuité de notre dernier épisode, on en était resté, je ne sais pas si tu te rappelles, à 12 ans. Donc ouais, en fait, maintenant, on va aborder la période après 12 ans. C'est ça. Donc pour faire un récap, la dernière période de l'enfance, c'était la période de latence, de 7 à 12 ans.
De 7 à 12 ans.
Où en gros, il y a une espèce d'accalmie dans la psychologie de l'enfant par rapport à la période précédente. Mmh. Et à 12 ans, il y a un nouveau phénomène en fait dans la psychologie de l'être humain qui se met en place, 11-12 ans à peu près. Donc c'est l'apparition de la puberté en fait, qui marque le début de l'adolescence.
C'est ça.
Tu me demandais qu'est-ce que c'est que l'adolescence. L'adolescence, c'est la rencontre entre en fait un processus de maturation biologique et de changement biologique avec des transformations psychiques. Mmh. Donc c'est la définition de l'adolescence. Mmh. Pour l'OMS, c'est une période de croissance et de développement humain entre l'enfance et l'âge adulte qui a lieu à peu près entre 10 et 19 ans.
D'accord.
Donc ça, c'est la définition de l'adolescence. Et concrètement, c'est donc le passage de l'enfance à l'âge adulte, qui est marqué par l'apparition de la puberté. Mm-mm. Je fais juste une petite parenthèse. Ouais. La notion d'adolescence est une notion extrêmement moderne qui est apparue à peu près au 19e siècle. Avant, il y avait les enfants et il y avait les adultes. Entre les deux, on parlait de jeunesse, en gros.
D'accord.
Mais la notion d'adolescence, elle a été introduite au 19e avec après la Révolution française, quand en fait il y a des jeunes gens qui ont commencé à sortir dans la rue, à se révolter et à s'exprimer. Mmh. Et ensuite, donc, la psychologie a analysé cette notion, mais c'est très nouveau.
D'accord, ok. Mais alors du coup, on a quand même, nous, déterminé une sorte de... On ne sait pas trop quand est-ce qu'elle commence et on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle finit, quoi, finalement. C'est ça ? Donc c'est ça qui peut-être peut-être compliqué à gérer quand on est parent.
Oui, alors en fait, on sait quand elle commence. Elle commence, comme je te disais, avec la puberté.
Ouais,
c'est vraiment c'est le marqueur de l'entrée. Elle est déclenchée.
L'arrivée des poils et des boutons.
C'est ça. Exactement. Elle est déclenchée par des processus biologiques et hormonaux. Donc concrètement, le commencement de l'adolescence, ça va être marqué par les premières règles chez les filles et par les premières éjaculations chez les garçons. Par l'augmentation de la taille, il y a une vraie croissance de la taille qui est très très forte, qui ressemble à celle du petit enfant. Une évolution des caractères sexuels primaires, donc qui sont les organes génitaux, et une évolution des caractères sexuels secondaires, qui sont la voix, la pilosité, les seins et les muscles. Parallèlement à ça, comme je disais, il y a une poussée de croissance. Et chez les filles, ça commence à peu près à 10 ans, et chez les garçons, à peu près à 12 ans. Donc ça, c'est vraiment le début de l'entrée dans l'adolescence physique et hormonale. En revanche, comme tu disais, il n'y a pas de fin claire à l'adolescence, à cette période. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a l'émergence d'un nouveau phénomène qu'on appelle l'adolescence, qui est une espèce de transition entre l'âge adulte.
Ça arrivait quand, ça, du coup ? Parce que l'adolescence, c'est, euh,
C'est, j'en ai entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est un petit peu le fait de ne jamais grandir ou de ne jamais vouloir devenir adulte.
C'est ça. En fait, l'adolescence, on la positionne à peu près entre 19 et 30 ans. En gros, c'est l'âge de la vingtaine. C'est cette espèce d'adolescence prolongée. C'est arrivé quand ça a été, en France, ça a été, le marqueur de cette notion a été le film Tanguy. Je ne sais pas si tu t'en rappelles.
Bah oui,
et en fait, c'est suite à ce film qu'il y a eu tous les publicitaires. Le terme adolescence vient des publicitaires. Hein. C'est une invention des publicitaires. Et après, il y a eu la mini-série, je ne sais pas si tu te rappelles, Bloquée, avec Aurel San, qui explique justement cette espèce d'adolescence prolongée dans la trentaine. Sur l'adolescence, ce qui est intéressant à comprendre, que ce sont des adultes qui s'identifient à des ados et non l'inverse. C'est pas des ados qui veulent rester ados. C'est des adultes qui s'identifient à des adolescents. Et on pourrait caractériser ça comme un renoncement au fait de vouloir devenir adulte.
C'est hyper intéressant, mais enfin, là, j'imagine que ça peut être l'objet d'un podcast à part entière, tellement ça nous reflète des choses sur notre époque.
Complètement.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'un refus d'aller dans le monde réel, enfin un refus d'y aller, un refus d'assumer le fait de devenir adulte, d'assumer des responsabilités, de...
C'est ça, en fait. Complètement.
Ouais.
Parce qu'en fait, si tu veux, on peut détailler ce qui se passe psychiquement dans un processus normal d'adolescent.
C'est ça, c'est les étapes, les grandes étapes, les phases et le déroulé psychique de l'adolescence.
Exactement. Ouais. Il y a trois phases dans l'adolescence. La première phase, alors, me demande pas pourquoi, les filles, c'est toujours avant les garçons.
Ah oui?
Oui, la première phase, donc, c'est 12-13 ans chez les filles et c'est 13-15 ans chez les garçons. C'est la phase dite d'opposition. Mmh. Donc, en fait, ça va commencer par une... Donc, on sort de la période de latence du côté petite enfance. Ça correspond à l'entrée au collège, en gros.
D'accord.
Ça va commencer par une grande phase de régression avec des comportements imprévisible, avec c'est la phase d'opposition en fait. Les ados s'opposent aux règles, ils questionnent tout ce qui semblait aller de soi pendant l'enfance. Et à ce moment-là, ce qui va se passer psychiquement, c'est qu'il y a une grande conscience de soi qui commence à se développer, mais qui dépasse, qui les dépasse. C'est vraiment la sortie du monde de l'enfance. En fait, tout l'enjeu de l'adolescence, c'est apprendre à être soi et à renoncer à l'enfance. Donc l'enfance extrêmement protégée par les parents, avec des modèles parentaux extrêmement marqués, extrêmement protecteurs. C'est une lâchée dans la nature. Tu vois ce que je veux dire? Donc là où l'enfant collé à l'identification de ses parents, son corps va commencer à changer, donc son psychique va commencer à évoluer. C'est jamais concomitant, ça va être par à coup. Tu vois,
je vois très bien.
Donc il y a cette première phase d'opposition qui en général déconcerte beaucoup les parents. Ensuite, on entre dans une deuxième phase qui est la phase d'affirmation de soi. Donc chez les filles, c'est 13-16 ans et chez les garçons, c'est 15-17 ans où le « je veux » va succéder au « je ne veux pas ». Parce qu'en fait, la phase d'opposition juste avant, on peut la comparer au « terrible two ».
J'étais en train de faire le lien dans ma tête, c'est-à-dire que j'étais en train de me dire, mais attends, la phase d'opposition, c'est le terrible tout, il commence à dire non à tout, et dès que tu dis le moindre mot, c'est non, 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 non.
Exactement, donc ensuite il y a cette deuxième phase où le
« je
veux »
en fait.
va enfin émerger, mais dans le « je veux », il va y avoir quelque chose que les parents connaissent très bien. En fait, le « je veux », c'est « je veux échapper à la banalité, je veux être unique, je veux être exceptionnel, je ne veux surtout pas être comme mes parents, je veux être libre, je veux scandaliser, je veux faire du bruit, il y a un conflit générationnel. »
Mais mon fils le fait déjà, tu vois, moi il a 2 ans et demi à peine, il fait déjà « je veux ça et je veux ça et je veux ça », c'est marrant.
Ouais, en fait, c'est tu dis très juste, c'est la psychanalyste française Evelyne Kestenberg qui explique que si tout se joue pendant l'enfance, tout se rejoue à l'adolescence, en fait, l'adolescence va être une réviviscence de tous les conflits qui se sont cristallisés pendant l'enfance.
D'accord.
Donc, il y a eu cette période de latence qui est comme une espèce de jachère, et à l'adolescence, tout se rejoue.
Ça rejaillit, en fait.
Exactement. Donc, c'est une phase de reprise des moments de l'enfance qui va, pour l'être humain, servir à parachever. En fait, c'est un parachèvement de toutes les phases précédentes. Et c'est pour ça qu'il y a d'importantes oscillations narcissiques. Donc, tu as des phases d'exaltation, d'euphorie très forte, tu as des phases très dépressives qui vont avoir lieu en attendant que le soi, le moi de la personne se consolide définitivement.
D'accord.
Ou pas.
Alors, c'est ça, Oui, parce que parfois, c'est jamais le cas.
Dans le « ou pas », tu as cette fameuse question de l'adolescence, effectivement.
C'est ça.
Donc, dans cette phase d'affirmation de soi, donc, t'as un côté extrêmement mégalomaniaque, t'as un côté très idéalisé, où les ados sont ultra généreux, altruistes, ou à l'inverse, très égoïstes. Tout est extrême, en fait. Ah, oui, tout est très clivé. Ouais. T'as un désir d'être exceptionnel. La grande figure qu'on connaît tous de cette période, c'est le poète Arthur Rimbaud,
ouais,
qui, en fait, a écrit ses poèmes à 15 ans. J'ai découvert ça là, pendant mes recherches. Et qui écrivait à 15 ans « Je veux devenir parnassien ». Donc, les parnassiens, c'était le mouvement poétique de l'époque. Ou rien. Donc, t'as ce côté hyper affirmé des choses. Et en fait, il va arrêter d'écrire à 20 ans. Donc, et lui, il venait de province, Charleville-Mézières. Il était prédestiné à être médecin. Et il voulait surtout pas de cette vie. Il a fugué à 15 ans pour aller retrouver les poètes. Il a écrit ses poèmes. Donc, c'est vraiment la figure même de cette phase.
C'est vrai.
Oui.
Je savais pas. Tu vois, tu m'apprends un truc.
Lui, en l'occurrence, c'était un génie. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde.
Donc, c'est pas parce qu'on écrit des poèmes à 15 ans qu'on devient Arthur Rimbaud.
Mais je trouve que c'est une figure intéressante pour les ados. Et après, tu as cette troisième phase qui est la phase d'indépendance.
Ouais.
Donc, les filles, c'est à peu près 16-18 ans, les garçons 18-20 ans, où en fait, tu as un déclin de toutes les idéalisations. Tu as des identifications plus stables qui vont se construire, qui vont perdurer à l'âge adulte. C'est vraiment l'entrée dans l'âge adulte, où tu as une indépendance affective, une indépendance économique et surtout une acceptation de ce passé de ses parents qui va s'installer avec l'accès au travail, l'accès au couple. Et tu vas avoir cette, en fait, l'abandon de l'enfance qui va véritablement se positionner. Et comme je te disais, cet abandon de l'enfance et ce passage à l'âge adulte est rendu incertain aujourd'hui dans nos sociétés où il y a du chômage, où il y a de l'incertitude, où il y a des normes qui sont de plus en plus brouillées, en fait, où il y a des rites de passage.
Il y a eu beaucoup d'inquiétudes liées au climat aussi. Enfin, des gens qui se disent « je ne veux pas aller dans ce monde-là ».
Bah, le côté nos futurs, il est très très marqué aujourd'hui.
Ouais. Alors, trois phases, donc on résume. Opposition, affirmation de soi et indépendance si tout se passe bien. Alors justement, je reviens juste sur les enjeux psychiques. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe on a compris les grandes phases qui sont quasi chronologiques, enfin opposition, affirmation de soi, indépendance.
Oui.
Mais du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement et psychiquement? Tu vois, c'est quoi les enjeux à cette période-là?
Alors, le grand enjeu, c'est l'abandon de l'enfance, comme je te disais, et c'est le fait de se confronter à une réalité qui est imparfaite. La réalité, elle est imparfaite. Enfin, en fait, le grand enjeu psychique, ça va être de supporter la réalité imparfaite, de sortir de ce clivage où on idéalise tout,
c'est ça.
Ou alors où on déteste tout.
C'est ça.
De s'y adapter, ce qui ne veut pas dire, c'est ça qui est très important si des ados nous écoutent, ce qui ne veut pas dire devenir conformiste, ce qui ne veut pas dire devenir cynique, mais ce qui veut dire devenir réaliste et donc abandonner des idéaux qui sont trop absolus, qui sont venus de l'enfance.
C'est incroyable ce que tu me racontes parce que ça me renvoie à mon choix de nom de podcast.
Réel ?
Bah oui.
Pourquoi ? Ah bah oui, bah c'est oui, ancré dans la réalité.
Je pense que, ouais, non, mais oui, c'est-à-dire que je crois que, indépendamment du sujet qu'on aborde, chacun a son tempo, chacun a son temps,
oui,
tu vois. Et que c'est vrai qu'il y a 5-6 ans, j'ai eu un besoin d'arrêter les idéaux et de... Je sais pas, ça me renvoie à mes propres turpitudes.
mais ça nous renvoie tous à ça. Ouais. Et en fait, c'est une période extrêmement violente. Alors, je trouve que c'est une période qui est vraiment magnifique. C'était Proust qui disait « L'adolescence, c'est le seul temps où on a appris quelque chose. » C'est d'une fertilité, d'une effervescence très forte, mais d'une très grande violence physiquement. Puisque en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le point de départ, comme je disais, il est physique. C'est ultra violent quand t'as ton corps comme ça qui change, quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive.
Il n'y a pas un complexe du homard de Françoise Dolto ? C'est un peu... Tu peux nous expliquer un peu ça ?
Oui. La notion de complexe du homard, effectivement, c'est Françoise Dolto qui l'a théorisée pour expliquer la période de transition. Elle parle de complexe du homard parce que les homards, à un moment de leur vie, vont perdre leur carapace et vont faire leur mue, comme un
c'est
serpent,
ça,
en fait,
ouais,
où la carapace va se briser et elle va se fissurer avant de totalement tomber. Et pendant ce temps, le homard est ultra vulnérable, ultra fragile. Il va se cacher derrière des rochers, il va se cacher sous les algues et il va être à la merci des requins et de tous les prédateurs de la nature. Et en attendant qu'une nouvelle carapace repousse définitivement, bah, il va devoir se protéger. Et c'est la même chose, c'est Françoise Dolto donc, qui expliquait ça, qui va se jouer pour l'adolescent jusqu'à acquérir une stabilité adulte. Il arrive dans un monde nouveau. Il a un corps qui est différent, qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'en fait, enfin, comme je te disais...
Oui, c'est ça, c'est au-delà de toi. Enfin,
il faut se rappeler cette période où tu as des poils qui arrivent, ton corps change, ta voix change. Quand t'es un garçon, la mue, c'est quand même un moment, je pense, assez compliqué à vivre. T'as les règles pour les filles, t'as les éjaculations pour les garçons, t'as de la poitrine, tu comprends pas. Enfin, c'est violent.
Ah oui,
hein.
Des boutons, enfin, c'est...
Et d'ailleurs, remarque aux parents, c'est vivement déconseillé de pointer toutes ces petites transformations qui sont liées à la puberté, parce que t'as plein d'adultes qui adorent faire ça, c'est déconseillé de le faire parce qu'en fait, l'adolescent, pendant ce temps, a un sentiment d'étrangeté par rapport à lui-même, avec voilà, l'acné, la prise de poids, les poils, où il n'a plus de repères.
Donc, puis en plus, ce qui est terrible, c'est que tu te retrouves aussi avec une forme d'injustice, parce que t'en as qui ont quasi pas de signes.
Oui.
Tu vois, moi, je me souviens, mes souvenirs d'adolescente... Moi, j'avais des boutons, un appareil dentaire, des lunettes. Enfin, tu vois, j'étais mal dans ma peau à cette période. Et autour de moi, je voyais des filles, mais t'avais l'impression que ça glissait sur elles, qu'elles n'avaient pas de sujet de peau, pas de sujet de poids, pas de sujet de dents, pas de sujet de tout. Et donc ça, c'est physique. Et après, il y a un autre aspect, mais plutôt exogène de ce que tu expliquais, sur les comportements des autres adolescents qui eux-mêmes sont dans ce truc-là, où la violence... Et c'est en ça qu'on en vient au sujet de parfois du harcèlement scolaire, c'est-à-dire ça tombe pile poil dans cette période où chacun est en train de vivre une révolution intérieure et du coup se rejaillit sur les autres. Et c'est à cette époque, alors que t'es le plus vulnérable, c'est à cette époque-là où la violence est la plus dure à ressentir, enfin la plus virulente et en même temps la plus compliquée à absorber.
Oui. Comme je disais, c'est une période d'une violence extrême. Les harceleurs, justement, puisque tu en parles, sont
souvent... Commence vers 10 ans, 10, 12 ans, enfin...
Bah, le collège, hein, c'est en gros. Et les harceleurs sont souvent ceux qui sont quasiment le plus mal dans leur peau. Parfois, c'est effectivement ceux qui sont populaires, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bien dans leur peau.
Bien sûr.
Ils sont très mal dans leur peau. Et ce qui se passe, c'est un phénomène de projection chez l'autre.
Ouais.
Ce qu'ils ne supportent pas chez eux, ils vont le projeter chez la personne en face avec des comportements d'une violence totalement atroce. Enfin, c'est...
Ouais, ça me fait penser à quelqu'un. Excuse-moi.
Et donc on était
sur le complexe du homard de Françoise Dolto.
Et donc ce qu'elle explique, c'est que toute cette période de vie va être une période de vie où l'être humain, enfin l'adolescent, va avoir à la fois besoin de se protéger parce qu'il ne se maîtrise pas, et en même temps avoir une, parce que c'est ce qui se passe dans la psychologie de l'adolescent, avoir besoin de sortir, parce qu'en fait, moment-là. Il va aussi avoir besoin de se décoller de ses parents. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement instable. Il va avoir besoin de sortir. Mmh. C'est là où se crée tout le phénomène des amitiés ultra-fusionnelles.
C'est ça.
Le côté bande de potes, etc. Ça. Pourquoi il fait ça ?
Qui remplace un peu la famille.
Exactement. Ouais. C'est pour trouver des nouveaux relais, des nouveaux référents. C'est pour ça aussi que les profs, par exemple, c'est des figures parentales qui peuvent avoir un rôle intéressant à jouer pour devenir des relais, notamment intellectuels, exactement.
Entre deux rives, entre la famille et les copains.
Exactement. Parce qu'en fait, la famille, les amis vont devenir la nouvelle carapace, un nouvel équilibre pour les ados qui ont besoin, c'est un besoin fondamental, de se détacher de leur famille à ce moment-là.
Alors, qu'est-ce qu'on fait des ados qui n'ont pas de copains ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ça arrive aussi.
C'est-à-dire bien sûr que ça arrive.
T'en as qui ne sont pas intégrés dans des bandes, t'en as qui... Parce que... On le voit l'isolement encore plus maintenant avec les jeux, le téléphone. Enfin, tu vois, il y a une capacité à. Enfin, c'est pas une capacité d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose dont on est victime, mais il y a une forme d'isolement où quand on fait pas partie d'une bande, on a à la fois besoin de rejeter sa famille. Enfin, rejeter, c'est un peu dur comme terme, mais c'est un peu s'émanciper de sa famille.
Oui, c'est ce qui se passe, oui.
Mais on se sent pas appartenir à une bande. Tu vois, donc c'est en fait, très complexe finalement.
Oui, t'as raison. Alors en fait, justement, avec les jeux vidéo, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a, ils se tournent de plus en plus vers le virtuel. Mais en fait, les jeux vidéo, c'est souvent à ce moment-là
des
jeux
en
réseau.
En bande, ouais.
Exactement. Ouais. Les réseaux sociaux, ben c'est vraiment autrui. Enfin, ils recherchent, mais c'est illusoire. Mais bien sûr, à chaque podcast, je le répète, je suis contre tout ce qui est virtuel et illusoire, parce qu'en fait, pour la psyché, ça fausse tout le rapport à la réalité. Enfin, on en revient au titre de ton podcast.
C'est d'une souffrance extrême. Je sais que pour certains ados, le fait de pas faire partie d'une bande, à sa marque à vie, en fait.
L'adolescence est une période d'une très, très grande violence. Enfin, et bien sûr que ça marque à vie. Enfin,
Parce que finalement, c'est des comportements que tu vas garder toute ta vie.
Oui.
Tu vois
oui.
Enfin, je sais, enfin, moi, je suis la première concernée, hein, je parle de moi, mais moi, pour des raisons multiples, mais j'ai jamais fait partie de bande, en fait. Et ce comportement-là, moi, il m'est resté toute ma vie. J'avais des copains très différents et très variés, mais j'ai jamais eu ce besoin d'appartenance. Enfin, peut-être que je l'ai éprouvé, mais je ne l'ai jamais assouvi. Mais ce besoin d'appartenance à une bande, c'est quand même quelque chose de très... c'est à la fois pulsionnel, enfin, à la fois très instinctif, mais quand il ne parvient pas, bah, tu te construis comme ça et tu te construis autrement.
Oui, c'était Winnicott, le psychiatre dont j'avais déjà parlé sur l'enfance.
Dans l'ancien podcast, on en a parlé.
Il disait, cette période de vie est celle d'une découverte personnelle qui doit être vécue. Chaque individu s'y trouve engagé dans une expérience, celle de vivre, et dans un problème, celui d'exister. Mmh. En fait, c'est apprendre à exister par soi-même et pour soi-même. Mmh. Et on sait que dans l'existence, on est confronté à du rejet, à nos limites, à nos désirs également. Mmh. C'est une période, comme je te disais, d'une très très grande fertilité, mais aussi bien dans le positif que dans le négatif.
Bien sûr.
Mais à la fin, pourquoi cette période est passionnante, c'est que c'est une période, c'est un mouvement de force, un mouvement de promesse de vie, et par définition, il n'y a pas d'adolescent qui ne rencontre pas de souffrance et pas de problème. Il n'y a pas d'adolescence sans vague. Et l'adolescent qui va trop bien, c'est inquiétant.
Qui fait rien hors cadre, qui fait ce que les parents demandent de faire, qui a pas besoin de sortir, parce que on en vient aussi au comportement maintenant, c'est-à-dire qu'il y a quand même des comportements qui émergent, j'ai envie de dire assez du jour au lendemain.
Oui.
Et franchement, je peux le constater aussi, enfin, l'ai constaté.
Avec les ados. Hein.
Ouais, c'est-à-dire que t'as. Alors, on a parlé effectivement des amitiés fusionnelles, des bandes qui remplacent la famille, mais il y a aussi, d'un coup, ils se mettent à sortir.
Oui.
À vouloir sortir, aller voir les copains, sortir le soir, pas rentrer, etc. Enfin, oui. Tu vois tous les parents dire, si tu rentres à minuit 5, t'es interdit de sortie jusqu'à pendant 3 mois. Mais voilà, c'est pour trouver des relais, c'est exister en dehors de sa famille, etc. Il y a également le fait de vouloir paraître, les looks, tu vois, l'appartenance moi, je suis plutôt gothique, moi, je suis plutôt bimbo, moi, je suis plutôt machin, je suis plutôt truc, donc... Ça aussi, c'est un besoin.
Le look, en fait, ça va être la nouvelle carapace par rapport au complexe du homard de Françoise Dolto. Le look pour l'ado, il est très important parce que c'est cette carapace provisoire. Donc, c'est pour ça que l'adolescent, à ce moment-là, il y a deux tendances qui vont se marquer, si on caricature. Hein, c'est où il va vouloir beaucoup se différencier des autres, donc gothique ou se mettre à avoir un ongle rouge, un ongle orange, les cheveux bleus, etc. Ou au contraire, il va vouloir beaucoup s'uniformiser. C'est pour ça que si tu fais une sortie de lycée, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils ont tous, toutes les filles ont le même sac à main, tous les garçons ont les mêmes baskets. C'est en fait pour rentrer dans la tribu, pour être intégré, pour être rassuré.
Mais du coup, tu es contre les uniformes à l'école ?
J'ai pas d'avis en fait là-dessus.
Est-ce que ça a un vrai impact selon toi ? Parce que finalement, moi j'ai toujours pensé que c'était une bonne chose, l'uniforme. Pour la simple et bonne raison que ça permettait aux différences sociales de s'effacer, c'est-à-dire que, ou culturelles.
C'est le grand argument de l'uniforme.
De dire que tu sois pauvre, riche, classe moyenne ou pas, tu ne vas pas ramener du Dior ou du je ne sais quoi, enfin des marques de luxe, dans l'école et que tout le monde est. Et que tout le monde est habillé de la même manière pour justement effacer ça. Donc,
Et en même temps.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
À l'adolescence, puisque là, on est vraiment sur l'adolescence, c'est aussi important que l'expressivité puisse s'exprimer, de la créativité du look. Donc, tu vois, t'as le pour et t'as le contre.
Non, c'est sûr. Donc, c'est des carapaces provisoires, tout ça. Et c'est vrai que c'est par phase, finalement, quand on y pense. T'as des phases, bah voilà, j'ai eu les cheveux bleus, j'ai eu les cheveux rouges, je me suis habillée comme ça, et puis à un moment, boum, ça part d'un coup finalement.
Oui, parce que en fait, si on théorise psychologiquement, t'as quelque chose qui a réussi à se construire avec cette carapace, et donc c'est possible d'abandonner.
Ils sont allés chercher quelque chose.
C'est une carapace. Donc ça les a protégés, ça a une vertu extrêmement protectrice. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, à l'âge adulte, tu trouves très peu de gothique, par exemple, alors que tu en as beaucoup à l'adolescence. À un moment, on abandonne en fait ce type de look parce qu'on n'en a plus besoin. Ouais. Ça a une vertu protectrice au départ.
Ouais. Mais alors ça, c'est pour l'aspect, on va dire, entre guillemets, sympathique et qui n'est pas très compliqué à gérer. C'est-à-dire que ce n'est pas si grave de changer de coupe de cheveux ou d'avoir les cheveux bleus, mais ou de se faire des ongles noirs, mais il y a des conduites à risque quand même qui émergent aussi à cet âge-là pour exister.
Complètement.
Et là, c'est des conduites à risque pour exister, mais qui peuvent détruire.
En fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que le vécu des bouleversements qu'on décrit est tellement violent, et tellement difficile, et tellement insupportable, que comme l'adolescent ne peut pas être, enfin certains adolescents n'arrivent pas à être passifs face à ces changements qui sont beaucoup trop brutaux et qui les assaillent, ils préfèrent prendre, c'est un arbitrage, prendre le risque d'une conduite plus à risque pour avoir le sentiment d'exister, d'avoir le contrôle sur les choses. C'est pour ça qu'il y a un côté tellement extrême dans les comportements adolescents, par exemple les consommations de drogue, par exemple bon, évidemment l'alcool, par exemple l'anorexie, par exemple les insultes, le désordre, l'hypersexualisation, parce qu'en fait, le débordement des pulsions intérieures est tellement fort qu'ils vont avoir besoin de prendre des risques pour masquer l'angoisse. Donc, c'est la phrase, en gros, « je risque, donc j'existe ». Tu comprends ? En fait, c'est une décharge. C'est une décharge des conflits que l'adolescent n'arrive pas à prendre en charge par lui-même. Je ne suis pas du tout en train de te dire que c'est une bonne décharge. Ouais. D'ailleurs, on conseille aux parents qui sont très souvent, enfin ça on en voit extrêmement souvent, des parents qui sont hyper inquiets par leurs enfants qui ont ce type de conduite. C'est intéressant d'encourager les ados à exprimer cette agressivité, ces pulsions, dans des activités saines, par exemple.
Le sport.
Oui, le sport, les arts martiaux pour les garçons, ou l'art, ou la créativité, mais des activités saines, énergiques,
c'est ça.
Plutôt que dans ce type de comportement. Et normalement, il y a une bascule, parce qu'avec les adolescents, c'est assez facile d'une certaine façon, c'est comme avec les enfants. Comme tout est en mouvement, tu peux assez facilement décaler les choses. Donc normalement, il y a un basculement qui peut se faire. Ça dépend de chacun, évidemment.
C'est hyper passionnant. Enfin, vraiment, ça me fait réfléchir sur beaucoup de choses. Mais c'est, du coup, dans les comportements à risque, on peut peut-être les citer. Il n'y a pas que le désordre ou le fait de devenir agressif, etc. Mais il y a une hypersexualisation qui est...
Oui.
Mais je pense quand même aux jeunes filles.
Oui, bien sûr.
Enfin, là, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, je vois des enfants. Enfin,
c'est des enfants
pour moi.
Tu soulignes un point juste, c'est que l'adolescence commence de plus en plus tôt. Parce que les phénomènes, même, je ne sais pas si tu vois dans ton entourage, mais les phénomènes purement pubertaires arrivent beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, les filles, elles ont de la poitrine à 10 ans, à 11 ans, alors qu'il y a encore 15 ans, c'était plutôt à 12 ans, à 13 ans. Je ne saurais
c'est
pas t'expliquer
quoi,
pourquoi. Je ne sais pas.
Ouais.
Mais.
Peut-être qu'on les met plus en valeur. C'est-à-dire que peut-être qu'on
peut-être.
C'est peut-être ça aussi le sujet. C'est qu'avant, peut-être qu'on ne les voyait pas, qu'elles les cachaient. Enfin,
mais raison.
C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux, il y a quand même des jeunes filles, des quasi-enfants, des adolescentes pour le coup, qui ont 12 ans, qui en paraissent 22. Quoi.
Ouais.
Qui mettent, qui se mettent très très tôt sur les réseaux, en maillot de bain, qui mettent en avant le corps. Pour moi, c'est très perturbant. Enfin, je trouve que c'est quand même. Et puis avec les parents qui sont OK.
En fait, c'est elles ne le font pas exprès. C'est-à-dire que encore une fois, comme je te dis, les adolescents ne captent pas forcément ce qui leur arrive. Et on sait que les adolescents ont besoin pour fixer leur image d'eux-mêmes, ils ont besoin d'être validés pour les autres, par les autres. C'est pour ça que le like et que les réseaux sociaux marchent tellement bien. Pour les adolescents,
TikTok,
puisqu'ils ont besoin, comme le corps,
le soutien de la communauté,
comme le corps leur échappe. Tu comprends,
ouais,
ton corps t'échappe à ce moment-là. Tu as besoin d'être validé par les autres pour comprendre ce qui t'arrive. Tu vois
sûr,
ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les filles passent autant de temps dans la salle de bain à se scruter, à se regarder. D'ailleurs, les garçons le font aussi, parce que le corps leur échappe. Donc, quoi de mieux qu'un réseau social qui te valide ? Tu vois, donc psychologiquement, c'est normal ce qu'elles font.
Ton miroir version.
Mais ce qui n'est pas normal, c'est important que juste que je finisse ce raisonnement. Ce qui n'est pas normal, c'est que les adultes cautionnent ça parce que c'est totalement n'importe quoi. Et que la société cautionne ça. Enfin, je trouve personnellement qu'il y aurait un vrai travail à faire au niveau légal pour mieux contrôler l'usage des réseaux sociaux.
C'est
enfin,
évident.
Je dis rien de nouveau, hein. Parce que c'est dangereux, parce que c'est pas ta vraie image, parce que c'est du filtre, parce que les autres, quand ils te likent, c'est pas vraiment toi qui likes. Enfin, tu comprends.
Il y a eu une réforme récemment, c'est Xavier, Bruno Le Maire qui a fait une réforme là-dessus. Tu sais, il a fait une loi, mais je trouve que c'est pas suffisant. C'est bien, hein.
Oui.
Mais c'est pas suffisant du tout.
Bah, bien sûr.
C'est-à-dire d'interdire aux influenceurs ou en tout cas de leur demander de préciser quand il y a un filtre pour vendre un produit. Moi, j'avais envie de dire, mais juste interdit les filtres, en fait, tu vois.
Oui, mais...
Non, enfin, c'est un peu abrupt, mais finalement, ce serait pas mal d'interdire les filtres.
Psychologiquement, ça serait excellent, enfin, parce que...
Parce qu'en fait, si tu te trouves moche sur une photo, tu la postes pas.
Et aujourd'hui, les premiers consommateurs de chirurgie esthétique, c'est la tranche d'âge 18-34 ans.
De plus en plus,
oui.
De plus jeune. C'est-à-dire, je le sais, il y a une... Il y a un phénomène où on me l'a confirmé, ça démarre à 25 ans.
Oui, je te dis, la première tranche d'âge, aujourd'hui, c'est 18-34 ans, en croissance. Hein. Je ne te dis pas que c'est plus que les personnes très âgées, mais en croissance de cette portion d'âge, ce sont les plus consommateurs.
C'est impressionnant.
C'est hyper triste.
C'est impressionnant parce qu'en fait, on est dans une ère où on nous dit qu'il faut être bien dans sa peau, on est dans le bien-être, dans le développement personnel, dans tout ça, et ça nous renvoie, ça nous renvoie aussi à une espèce d'idéalisation de beauté, de culte de la beauté, qui est finalement très illusoire. C'est perturbant. Alors donc, j'en viens au sujet de fond aussi, c'est le dur et difficile rôle d'être parent d'un adolescent.
Oui.
C'est-à-dire que c'est quand même sacrément compliqué.
Oui, il y a un petit proverbe comme ça qui dit « petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes ». C'est vrai. C'est très, très dur, en fait, d'être parent d'un adolescent. Je pense que c'est plus dur que d'être parent d'un petit enfant.
Ouais. Désolée, Estelle, Non, mais t'as raison. Mais c'est que ça me fait penser à une citation. Et pour ne pas le citer, c'était mon père qui disait « Quand t'es petit, tu nous empêches de dormir. Et quand t'es grand, tu nous empêches de vivre. » Sympa. Non, mais c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a un sujet de fond. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui souffrent, de parents qui souffrent.
Oui.
Tu vois, mais vraiment. C'est-à-dire que...
Parce qu'en fait, toute la thématique d'être parent, c'est d'accepter l'ambivalence. D'accepter, d'un côté, tu reçois des coups. Et de l'autre côté, tu dois protéger et contenir cet être humain qui est encore ton enfant, mais qui n'est pas encore un adulte. Donc, tu dois accepter d'être un objet de tension permanent. Qui est très très fort et qui est dirigé contre toi.
Bien sûr.
Puisque toute la thématique de l'ado, c'est de se séparer de ses parents.
Ouais.
Et d'arriver à rejeter ses parents, parce que c'est obligatoire dans le processus. Tu es obligé de rejeter tes parents à un moment pour te construire.
Mais on en revient à cette idée de lien continu entre la petite enfance et l'adolescence. On en revient, alors tout à l'heure c'était sur la phase du non, le terrible tout, mais là on peut très bien le rapprocher au phénomène de non, pas maman, moi je me suis quand même pris une claque, je me suis quand même pris une baigne de mon bébé. Donc,
mais dis-toi que ça va être plus fort pendant l'adolescence.
Non mais tu vois, c'est-à-dire que donc il m'a quand même, il m'a rejeté. Et toi, face à ça, t'es obligé d'agir d'abord par rapport à ça, mais en même temps de lui rassurer sur ton amour.
Et en fait,
et c'est ça qui est très particulier.
Tu dois accepter d'être cet objet de tension. Ouais. Tu dois accepter d'être totalement manipulé, utilisé d'une certaine façon. Mais on a fait pareil avec nos parents. Hein. C'est l'histoire de l'être humain, en fait. Tout en les acceptant, parce qu'en fait, tu as aussi toute la thématique des parents qui ne supportent pas d'être dépassés par leurs ados. Parce que, en fait, ados nous remettent totalement en cause dans nos conformismes, dans notre embourgeoisement. Plus t'es adulte, plus tu t'embourgeoises. Et les ados nous challengent, là-dessus. Et il faut accepter de les laisser choisir d'autres modèles sans se sentir déprécié.
Et sans s'effacer non plus,
Évidemment.
Sans s'effacer, bien sûr, parce qu'ils ont besoin, au contraire, de la confrontation. C'est quand même un
ils
besoin.
Ont besoin de la confrontation, ils ont besoin d'une solidité en face d'eux.
Stabilité.
Et d'une stabilité, et ils ont besoin, comme les enfants, d'être extrêmement contenus. En fait, un ado, quand il challenge son parent, c'est comme un enfant quand il challenge son parent, il a besoin de voir que la limite existe.
Bien sûr.
Tu comprends, et le parent démissionnaire, je renvoie au podcast sur l'enfance, c'est un parent angoissant. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu challenges, quand tu dis non, quand tu dis t'es nul, etc., il y a un plaisir à retenir le
bien
parent.
Sûr. Bien
tu,
sûr.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est que t'es pas sûr. Encore émancipé.
Bien sûr. Bien sûr. Et le démissionnaire, et là j'en reviens, c'est très, 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 très angoissant. T'as raison. Donc, quand tu contiens ton enfant, tu le rassures sur les limites, sur le fait que tu peux le protéger, que tu es là.
Le plus grand service que tu puisses rendre à ton ado, et c'est comme aux enfants, c'est d'être toi-même. C'est d'être toi-même dans ta vie. C'est exactement ouais. comme avec un enfant. Ouais. C'est-à-dire toi-même de montrer que tu as une vie que toi-même tu juges saine, positive, que ce soit une vie professionnelle, familiale, ouais. amoureuse, etc. Épanouie, parce que ça va renvoyer à l'ado le fait que ça peut exister. Mais le fait qu'il n'aura pas la même vie que toi. C'est-à-dire que si tu es trop parfait, comme la mère parfaite de Winnicott qui est trop dangereuse, si tu es trop parfait, tu vas empêcher l'enfant, l'adolescent, d'accéder à sa propre individualité.
Mais d'autant que là, je mets un peu les pieds dans le plat, excuse-moi, peut-être que je te coupe en plein développement, mais je pense au changement de sexe. C'est-à-dire qu'il y a quand même ça aussi qu'on rajoute à mon époque. Moi, il n'y avait pas ce truc-là.
Bah non, beaucoup moins.
Tu vois Enfin, moi, je n'ai pas souvenir dans ma cour d'école ou dans ma cour de collège d'avoir eu des enfants qui voulaient changer de sexe, vois, et qui voulaient que ce soit soutenu par tout le monde. Parce que j'ai vu ce cas-là, et c'est un exemple très concret, d'adolescents qui soutiennent le changement de sexe et qui demandent aux parents de valider ça.
Oui.
Et alors là, c'est quand même compliqué parce que nous, quand on dit être soi, bah oui, mais moi, être moi. Si demain j'ai un ado ou une ado qui me dit bah je veux changer de sexe, de fille je veux devenir garçon ou de garçon je veux devenir fille ou ma copine elle veut faire ça, maman tu dois soutenir, bah je dis je soutiens pas. Tu vois ? Enfin, c'est mes convictions.
Un des grands enjeux de l'adolescence, on parlait des enjeux psychiques tout à l'heure et on l'a évidemment pas beaucoup développé, c'est le fait d'apprivoiser un corps sexué. Hein, puisque quand tu es enfant, ton corps n'est pas sexué, par définition. Mmh. Et là, tu vas avoir un développement en fait, de tes organes génitaux, tu vas avoir l'apparition même de pulsions sexuelles. Tu as des pulsions agressives et tu as aussi des pulsions sexuelles qui sont fortes en fait, à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, effectivement, tu as la sexualité qui va se fixer plus ou moins quelque part. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est pour ça que tous les thérapeutes, il y a même eu un centre en Angleterre sur les changements de sexe, sur... la transsexualité où il y a eu une polémique en fait autour de ça qui faisait changer beaucoup trop tôt les adolescents de sexe et en fait où ils se sont aperçus qu'il y avait des retours de personnes après coup qui disaient mais en fait c'était trop tôt, j'étais pas encore fixée, etc. Donc c'est très important. Bon, voilà, la transsexualité finalement a toujours existé dans l'histoire, donc t'as
des
gens...
Oui, mais c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a un tempo, il y a quand même un timing à respecter, c'est-à-dire que quand tu es trop jeune et que pour tous les développements que tu viens de faire, bah, si tu dis à quelqu'un, alors qu'il n'a même pas fini de se trouver sexuellement ou qu'il n'a pas assouvi ses pulsions, enfin vécu tout ce qu'on vient de dire, comment veux-tu changer de sexe en fait ? C'est compliqué, puisque toi-même, tu ne sais pas.
Et de toute façon, j'ai envie de dire, tu parlais des ados qui demandent aux parents d'être soutenus, mais en fait, ce n'est pas aux parents de valider ça. Tu vois ce que je veux dire ? Les parents, ils peuvent dire, ok, tu te poses des questions en ce moment sur toi, je t'écoute, mais pas plus. Le parent n'a pas à valider ou à infirmer une tendance sexuelle de son enfant ou pas. C'est à la personne elle-même de le découvrir. Tu comprends ? Être un bon parent, c'est offrir un regard positif, offrir un regard validant où tu comprends le vécu de la personne. Enfin, tu le comprends. Je ne sais pas si tu peux le comprendre, mais tu l'écoutes à minima, mais tu ne donnes pas ton avis. Tu peux donner des conseils.
Ouais, mais c'est très compliqué.
Ben, en fait, la meilleure attitude, c'est d'écouter. C'est de ne pas rejeter. Ça ne sert à rien de rejeter. Tu comprends ? C'est d'écouter. Et c'est de permettre à ton ado, à ton jeune, d'arriver à sa propre solution tout seul. C'est complexe quand on est parent, parce qu'on a envie d'intervenir.
Ouais, et puis c'est complexe d'être soi. Tu vois, parce que quand tu dis c'est être soi, c'est le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Et
oui,
en même temps, il ne faut pas dire ce que tu penses. Tu vois, et en même temps, ne pas être démissionnaire. Tu marches sur un fil en permanence.
Comme je te disais, je pense sincèrement que c'est plus dur d'être parent d'un ado que de parent d'un enfant. Parce que tu dois permettre à autrui d'accéder à sa vie d'adulte, à lui permettre, en fait, potentiellement de te dépasser et en tout cas de se séparer de toi. Mais pour un parent, c'est pas facile, hein.
Mais c'est-à-dire que en fait, imaginons si tu n'as pas aidé ton enfant à te dépasser ou à être meilleur que toi. Enfin, on parle de psychisme, hein, on ne parle pas de résultats. Peut-être que ça ça va rejaillir en tant qu'adulte après. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des conflits qui se résolvent, enfin, qui ne trouvent jamais de solution, des conflits familiaux.
Bien sûr.
Qui ne trouvent jamais de solution.
Oui.
C'est-à-dire que tu restes figé sur cet état-là, avec des parents qui ont peut-être pris trop de place, peut-être ont trop porté de jugement, peut-être ont été trop dans le conflit, trop dans l'affrontement, que ça, ça laisse des ruines, et que ces ruines-là, tu te les trimbales en fait toute ta vie, et
toute
puis c'est
pour
ça que tu as des enfants à 45 ans qui sont encore fâchés avec leurs parents, quoi.
Oui.
D'accord.
Je le pense sincèrement. L'énorme enjeu d'être parent, c'est de permettre à ton enfant, à ce moment-là, enfin, on parle vraiment de l'adolescence, de se libérer de ton influence. Quand t'es parent, tu veux forcément avoir une forme d'influence sur ton enfant, c'est humain. On est tous pareils, tu
ouais,
vois.
Bien sûr.
L'idée, c'est un moment de permettre à autrui d'être qui il est. C'est le fameux « nos enfants ne sont pas nos enfants ».
Bien sûr, tu me l'enlèves de la bouche, j'étais en train de repenser à ce poème magnifique. Non, mais c'est, du coup, dans la continuité, mais peut-être qu'on peut aussi dire que si tu plonges dans la drogue à, je sais pas, 17, 18 ans, et que tu n'en sors jamais, parce que il y a des cas aussi, tu
bien
vois, de gens qui finalement s'en sortent jamais, qui ont commencé à leur plus tendre jeunesse, et puis qui se retrouvent à 50 ans toujours dépendants de la drogue, de je ne sais quelle drogue d'ailleurs, avec une espèce de surinquiétude des parents. Parce que, en fait, les parents ne sortent jamais de leur rôle de parents. Alors ça, c'est une certitude, parce que
mais
tu te sens parent, enfin,
tu
heureusement.
Peux pas. Oui.
Mais quand, en fait, t'as un enfant qui crée ce lien permanent de dépendance à son parent par la drogue, par l'addiction. Enfin, je te dis pas que c'est de la faute de l'enfant. Hein. Il y a forcément une...
Bah, c'est une... Enfin... On peut renvoyer au podcast sur l'addiction.
Oui,
sur
voilà,
ce
mais après,
précis.
C'est... Voilà, après, il y a... Exactement, t'as raison. Qui était un très, très bon épisode. Mais du coup, c'est très complexe de comprendre tout ça. Parce qu'on on le sait pas. Enfin, tout ce que tu viens d'expliquer, toi, ça te paraît limpide parce que c'est ton métier et que t'es dedans toute la journée, mais...
Mais tu sais, tu ça paraît limpide pour personne parce que c'est tellement...
Oui, en fait, c'est théorique et après, il y a la pratique.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Mais c'est vrai que, du coup, il y a un soutien... parce qu'il y a aussi, je pense, et là, on peut en parler notamment pour la maternité, mais c'est très complexe de trouver des supports au sein de tes amis. Parce qu'en fait, tes amis, eux-mêmes, ils sont parents. Si ça se trouve, ils sont parents d'enfants du même âge, etc. Mais toi-même, tu as une sorte de honte, peut-être parfois. Mm. Peut-être que tu te dis, mais... Enfin, c'est pas de la honte, mais ça peut être de la gêne, ça peut être une sorte de compétition. Et on revient à cet esprit de culte de la performance où on se dit, bah... Moi, je ne suis pas bon parent parce que j'ai fait ça, ou je suis bonne parce que j'ai fait ça. On le voit dans le regard des parents quand tu as des adolescents qui ont des très très bonnes notes à l'école.
Ah, bah ils sont fiers.
Mais une fierté incroyable. Enfin,
mais
tu
en
vois,
fait, mais ce n'est pas leur note, c'est ce que je te disais. Enfin,
les
succès des enfants ne sont pas nos triomphes.
Ouais, mais alors ça, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est très complexe à appréhender.
Oui.
Parce que quand tu as un ado qui échoue et qui est en échec scolaire, enfin un échec scolaire, même si je déteste ce terme, mais enfin en gros, qui n'arrive pas à avoir des bonnes notes, forcément, on regarde le parent. Tu vois, on va dire, bah, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le loupé?
Oui, mais encore une fois, c'est un leurre. Enfin, encore une fois.
Bah oui et non, quand même. C'est-à-dire que il y a un moment, tu peux te dire, bah, t'as quand même apporté un cadre à ton enfant pour qu'il ait envie de travailler, qu'il ait envie d'avoir des bons résultats.
Oui,
tu vois.
Non, mais t'as raison. C'est-à-dire que c'est toute la thématique du parent d'encourager au maximum son enfant. Mais enfin, c'est toute la thématique entre la responsabilité et la culpabilité. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, un parent n'est pas coupable. Ou au contraire n'a pas à se glorifier ou de l'échec ou du succès de son enfant.
En revanche,
non mais en revanche, il est responsable, c'est-à-dire que enfin voilà, il y a un âge légal qui est 18 ans, enfin tant que ton enfant est sous ton toit, tu es responsable légalement de lui, enfin s'il est en danger, enfin tu as une responsabilité vis-à-vis de ton enfant. Donc c'est pour ça que on en a pas beaucoup parlé, mais tout l'enjeu pour un ado, et c'est comme avec un enfant, c'est d'inculquer le respect de la loi et la limitation, enfin éviter au maximum les mauvaises conduites. En tant que parent, évidemment que tu as un rôle à jouer sur si ton enfant se met à prendre de la drogue, tu as un rôle à jouer, tu as un rôle même interventionniste si jamais ton enfant est en danger. Si ton enfant effectivement a des problèmes scolaires, ou tu es OK avec ça parce que tu t'en fous du système scolaire français, et je le conçois totalement, enfin, et c'est pas grave s'il a des mauvaises notes, ou si tu sens que ton enfant est en échec parce qu'il souffre, etc., tu as un devoir en tant que parent de l'accompagner. Tu vois, c'est cette ligne d'équilibre, cette ligne de crête.
Qui est très compliquée.
Mais pas par rapport au regard des autres, par rapport à ton histoire familiale avec ton enfant. Tu vois
Non, non, mais c'est très important de rappeler la limite entre culpabilité
et responsabilité.
Et le curseur n'est pas évident à placer.
Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment, je te dis, c'est une ligne de crête. Hein. C'est un travail d'équilibriste. Mmh. Tu dois laisser l'adolescent assumer son indépendance et assumer aussi ses conneries, tu vois, tout en gardant le contact avec lui et en lui rappelant la loi, le respect des limites et ta présence et ton soutien pour l'aider parce qu'il n'a pas la maturité psychique de tout comprendre.
Bien sûr, mais on l'oublie ça. C'est vrai que souvent un enfant, enfin un adolescent de 14 ans, en plus, encore plus maintenant, je trouve qu'ils ressemblent tous à des garçons de 10 ans de plus. Enfin,
oui,
je trouve qu'il y a une génération là qui fait 2 mètres, qui est costaud, qui fait du 46 et tout, en pointure. C'est quand même assez perturbant parce que tu es face à physiquement des gens qui paraissent 10 ans de plus, mais bon, psychiquement,
mais à
c'est des bébés.
C'est
quoi.
Encore... Bah oui,
bah voilà, donc c'est très très perturbant.
Oui.
Et c'est vrai qu'on a un peu de. C'est pas facile d'être parent.
C'est pas facile du tout.
Est-ce que tu as des conseils, du coup, Alix, pour. On va se quitter dans pas longtemps, mais est-ce que tu aurais des conseils, quelques lignes directrices que tu veux rappeler suite à notre échange?
Toujours l'écoute, enfin, vraiment.
La communication, ne jamais rompre le dialogue.
Non, jamais, jamais. Ouais. En fait, les écouter, mais vraiment les écouter. C'est-à-dire pas les écouter pour ensuite leur inculquer nos préceptes, etc. Une écoute très active. S'intéresser à ce qu'ils disent.
Oui.
En fait, tu t'intéresses à ce qu'ils te racontent parce que, et d'ailleurs, comme je faisais, c'était Proust qui disait que c'était la période la plus intéressante de la vie de l'être humain. C'est vraiment intéressant de les écouter.
Et sans être intrusif.
Exactement. Oui. L'encourager à créer au maximum. La créativité, c'est toujours bon. C'est ultra thérapeutique.
Bien sûr.
La créativité, ça peut être dans le sport, ça peut être dans les études, ça peut être dans les arts, ça peut être dans les amitiés, ça peut être. Enfin, c'est passionnant cette période de la vie. Le laisser choisir ses modèles extérieurs sans te sentir toi-même déprécié. Le plus dur, ça.
Oui.
Et offrir un exemple de vie saine. Voilà les grands préceptes. Et communiquer, c'est vraiment important, comme avec les enfants, les limites claires aux pulsions et aux interdits. Tu as des choses, tu dois apprendre à contenir ton ado pour le protéger.
Merci Alix, c'était passionnant de t'écouter. Je renvoie bien entendu tout le monde à tous les épisodes qu'on a déjà enregistrés ensemble, qui s'appellent Conversations thérapeutiques. On a abordé beaucoup de thématiques. Je rappelle bien évidemment qu'on peut te joindre. Tu t'appelles Alix Georges. En tapant ton nom sur n'importe quel moteur de recherche, on te retrouve. Voilà. Écoute, un grand merci Alix et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.
Merci beaucoup Estelle pour ce moment de partage, comme à chaque fois. Merci à toutes, merci à tous et à bientôt.
À bientôt, bye bye.
Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.